et à la sagesse, et avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête un gracieux ruban, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, ainsi les années de ta vie seront nombreuses. Je t'ai enseigné la voie de la sagesse, je t'ai conduit sur les routes de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne te trébucheras pas. Saisis l'instruction, ne la lâche pas, retiens-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne t'avance pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Il serait privé de sommeil s'il n'avait fait trébucher personne, car ils se nourrissent du pain de la méchanceté, et c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils ne savent pas ce qui les fera trébucher. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Et pour tout le corps, c'est la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de toi la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres. Éloigne-la de toi. Que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent droit devant toi. Aplanis la route par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien assurées. Ne dévie ni à droite ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Il y avait un inventeur américain, 19e siècle, qui disait ceci. Le génie est fait d'un pour cent d'inspiration et de 99% de transpiration. C'était Thomas Edison, un grand homme américain de l'époque, pour dire que ne pensez pas que tu vas réussir parce que vous êtes doué, mais vous allez réussir si vous mettez la main à la pâte. Il faut travailler pour réussir. Et le dévouement dans un domaine ou un autre est nécessaire. Pour être brillant, n'est-ce pas, dans un domaine ou un autre. Si vous voulez être musicien professionnel, et on en a dans cette église, que faut-il faire pour avoir le niveau nécessaire? Il faut répéter sans cesse. Dans un sens, on voit la gloire des musiciens lourds du concert, mais derrière ce court moment de gloire, il y a une vie assez banale. Où on répète, et on répète, et on répète, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Si vous voulez réussir un concours pour entrer dans la Commission européenne en tant que fonctionnaire, vous devez réviser. Réviser. C'est usant, et même là, ce n'est pas garanti. J'ai entendu parler hier de quelqu'un qui a fait le concours une trentaine de fois, sans réussir. C'est usant, il faut du travail. Si vous voulez être un grand sportif, vous voulez gagner la course, il faut vous entraîner. Je ne suis pas un grand fan de Paul Pogba, qui joue pour la France et pour Manchester United, parce que je pense qu'il attire un peu l'attention trop sur lui. Paul, si tu écoutes ce message en ligne, ça m'étonnerait, mais au cas où c'est le cas, je te demande pardon et venez me trouver à l'église de Woolway, avenue Slegers 96. Mais ce que j'admire de lui, même s'il attire beaucoup d'attention, apparemment c'est lui qui reste sur le terrain d'entraînement à Manchester pour le plus de temps. Si tu veux maîtriser ce que vous faites, il faut mettre du temps, il faut la discipline, le dévouement à cette tâche. Il faut donc la transpiration, si on peut le dire comme ça. Et ce que nous voyons dans ce chapitre 4 de Proverbes, c'est également un appel à ce même niveau de dévouement. Non pas pour réussir un examen, pour remporter un prix, pour gagner une course, mais pour bien vivre, comme nous avons vu la semaine dernière, bien vivre dans le monde que l'Éternel Dieu a créé. Il s'agit d'un appel de chercher, avant toute autre chose, la sagesse. L'introduction de ce livre au chapitre 1, les 7 premiers versets, nous avons vu la semaine dernière, nous indiquait où se trouve cette sagesse. C'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse, ou la clé de la sagesse, de la connaissance, nous avons vu. Donc ce n'est pas un bonus, si vous voulez, la sagesse, après avoir réussi dans beaucoup d'autres domaines. Ce n'est pas une petite aide supplémentaire au cas où je tombe en difficulté. C'est non plus un air spirituel de temps à autre pour me rappeler de qui je suis réellement. Non, c'est le commencement de la sagesse. Il faut commencer avec la crainte de l'Éternel pour être sage aux yeux de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Cela signifie que nous pouvons être intelligents sur certains critères de ce monde-ci, tout en étant un imbécile. On peut être sage, d'après certaines définitions de ce mot, tout en étant un insensé. Car le commencement de la sagesse, de bien vivre dans ce monde, un monde créé par un seul créateur, c'est de reconnaître, de révérer, de craindre, dans le bon sens du terme, ce même créateur, l'Éternel qui se révèle à nous dans sa parole, qui s'est révélé à nous suprêmement en son Fils, Jésus-Christ. En qui, nous dit le Nouveau Testament, se trouvent tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. Alors oui, ce serait bête, insensé, de vivre dans ce monde, dans notre activité professionnelle, notre vie familiale, sans reconnaître l'Éternel Dieu. Et après cette introduction au chapitre 1, les 7 premiers versets, on tombe pendant 9 chapitres sur une série d'exhortations qu'on capte l'importance de cela. Il y a exhortation après exhortation. Et toutes ces exhortations viennent de Salomon, qui a écrit le livre. Mais parfois, Salomon se présente sous différentes formes. Parfois, c'est un père qui s'adresse à son fils, comme on a vu Paul qui parlait à Timothée, son fils dans la foi. Parfois, c'est une personnification de la sagesse. C'est comme si la sagesse devient une personne, une femme, et qu'elle nous parle directement. Mais parfois, c'est simplement Salomon lui-même qui s'adresse à nous directement. Il y a donc différentes formes littéraires employées pour nous interpeller. À faire quoi? À tout faire pour chercher la voie de la sagesse. À ne pas prendre la voie des méchants. La voie de la folie. Voyons juste brièvement ça avant d'arriver au chapitre 4, si vous avez la Bible ouverte vous-même. Chapitre 1, verset 8, donc première exhortation après l'introduction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Puis verset 20 du chapitre 1. La sagesse, donc la sagesse est une personne ici, crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Que dit-elle? Verset 22, « Jusque à quand, stupide, aimeriez-vous la stupidité ?» Donc que ce soit Salomon, que ce soit le Père, que ce soit la sagesse qui nous parle, dans un sens, tout ça, ça revient au même. Dieu, par ses multiples moyens, nous interpelle. Et au chapitre 4, on y arrive maintenant, malgré les nombreux prétendants qui nous tendent la main, dont nous avons entendu parler la semaine dernière, dans notre société pour nous accorder le bien-être, le chapitre 4 nous pousse à une décision, à un dévouement à la voie de la sagesse. Et ici, c'est le Père qui parle, n'est-ce pas? À des fils, pluriel selon le verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un Père. Soyez attentifs. Car verset 2, je vous donne un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. Et quel est son enseignement? Verset 5, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Une fois acquise, il continue verset 6, ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Puis verset 7, je pense qu'il joue un peu avec son fils, car il dit, voici le commencement de la sagesse. Et nous savons, si nous avons lu donc l'introduction du livre, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais que dit-il ici? Le commencement de la sagesse acquiert la sagesse. C'est capital, ceci. Acquiert la sagesse. C'est-à-dire, apprendre à vivre sous le regard bienveillant de ton Dieu créateur, à la fois transcendant, il est plus grand que nous, à la fois immanent, il est présent parmi nous, ce Dieu qui se révèle à nous en Jésus-Christ, le seul sage. Apprends à vivre avec ce Dieu-là. Au lieu de faire quoi? Alors on saute vers les versets 14 et 15, s'il te plaît Pablo. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne t'avance pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre. Donc, conclusion jusque-là, ce n'est pas ici une simple exhortation parentale où on dit, de manière classique, à nos enfants, sois sages. Donc, vous soyez sages, il y en a plusieurs. Car lorsque nous disons cela, souvent on ne veut pas dire qu'il faut activement chercher la volonté de Dieu. Non, on dit simplement, sois sage parce que j'aimerais une vie tranquille, moi, que vous ne m'embêtez plus. Ok? Mais ici, le Père, il veut beaucoup plus que cela, n'est-ce pas? Il veut le bien de son Fils. Il exhorte son Fils à prendre la bonne décision. Donc, est-ce qu'acquérir la sagesse se résume alors ainsi? Devenez chrétien, convertissez-vous, choisissez l'Éternel, soumettez-vous à Christ. Certes, ce serait une bonne chose à faire, chers amis. Essentiel, si nous voulons poursuivre le chemin de la sagesse biblique. Mais c'est plus que cela, car ces mots s'adressent à ceux qui font déjà partie du peuple de l'Alliance, le peuple de Dieu. Ceux qui ont déjà pu bénéficier d'une éducation chrétienne, en quelque sorte. Donc c'est un appel un peu plus large à de telles personnes de ne pas négliger la route, de ne pas dévier de cette route-là, à rester sur la bonne voie. Donc, si vous suivez sur le dos de votre feuillet, vous allez voir qu'on vient de faire un peu l'introduction, l'appel. Acquiert la sagesse, reste sur sa voie. Et pour le temps donc qu'il nous reste, nous allons nous pencher sur trois aspects de ces exhortations qui nous encourage à y rester. Et ensuite, nous allons terminer avec une dernière exhortation. Donc d'abord, n'oublie pas que d'autres ont poursuivi le même chemin que toi. Je ne sais pas si vous êtes fils ici, jeune fils. Et si à un moment donné, vous avez eu l'impression que ton père ne devenait rien qu'une voix un peu disciplinaire. Toujours en train de te corriger. Toujours en train de te donner des leçons pour bien vivre. Et lorsqu'on est jeune adulte, il y a ce désir brûlant de dire « Merci papa, c'est ta façon de faire, je comprends bien. Mais je veux découvrir des choses pour moi. » Ce n'est pas parce que toi, tu as fait certaines choses d'une certaine manière que moi, je dois faire pareil. Le danger, en ce qui concerne la sagesse, c'est que le fils se croit plus illuminé que son père dépassé. Son père qui ne sait même pas ce que c'est Instagram ou Snapchat ou autre. Et donc, afin de tenir toujours l'oreille de son fils, le père emploie une autre tactique, vous voyez, au verset 3. Il rappelle à son fils qu'il était lui-même également un fils à un moment donné. Verset 3, « J'étais en effet un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'enseignait, verset 4, et alors il me disait que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. » Je pense que cela encourage le fils de savoir que le père qui l'instruit aujourd'hui, il sait ce que c'est, ce désir de trouver son propre chemin, de s'écarter des voies du Seigneur, de prendre des décisions folles, parce que lui aussi, il devait apprendre de son père. Donc ce n'est pas comme si le père qui pense, il est infaillible à tous égards. Non, c'est un danger, je pense, cela. En tant que père, nous voulons parfois être toujours des hommes forts qui ne se trompent jamais, qui sont toujours sur la bonne voie. Non, ce père-ci, il est humble. Il reconnaît qu'il avait aussi de quoi apprendre dans son propre parcours. Et je pense que cela doit aider le fils à écouter son père. C'est bien de voir l'encouragement au fils de la part du père n'est pas simplement négatif d'ailleurs. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, c'est pas bien. Non, il y a ça, de temps à autre, mais il y a un accent prédominant sur le positif ici. Que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements, et tu vivras. Les tentations de nous écarter de la bonne voie lorsque nous sommes jeunes, mais aussi lorsque nous sommes moins jeunes. Ces tentations sont grandes, attirantes. C'est pour que ce soit les conseils de nos amis à l'école, ou au club de sport, ou dans différents loisirs, peut-être sur les réseaux sociaux. Je reçois des informations, des opinions. Et je me suis dit, ah, peut-être ce que j'entends à l'église, c'est pas aussi important que cela. Parfois, les conseils qu'on reçoit semblent être imprégnés de bon sens, semblent être plus à jour, semblent être plus aimables, semblent offrir le bonheur et la découverte de la vie. Comment faire pour ne pas tomber dans le piège de la pensée qui ne démarre pas avec la crainte de l'Éternel? N'oublie pas, premier conseil, que d'autres ont poursuivi le même chemin que toi tu dois prendre si tu veux être sage. Tu n'es pas le premier si vous luttez avec ça pour le moment. D'être confronté avec un tel choix, prends courage, apprends de l'exemple de ceux qui t'ont précédé. Deuxièmement, n'oublie pas qu'il y a un coût considérable à prendre en compte. Un coût considérable à prendre en compte. Verset 7, que dit-il? Avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence. Selon le semeur, recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. La sagesse s'achète au prix de tout ce que nous avons, mes amis. La sagesse ne contente pas d'être sixième sur votre liste. Une belle carrière, une belle maison, une belle famille, une retraite paisible et une santé stable jusqu'à la fin. Ah, et après cela, pourquoi pas, ajoutons la sagesse. Ça fera une vie réussie, n'est-ce pas? Non, la sagesse demande d'être en premier. D'abord la sagesse, avant toute autre chose. Vendez tout ce que vous avez si nécessaire pour obtenir cette sagesse. Alors, est-ce que cela vous paraît un peu exagéré ce matin? Ben, cela signifie que vous n'avez pas encore compris la valeur de cette sagesse-là. Écoutez les verbes d'affection autour de cette exhortation verset 7 d'acquérir la sagesse. Verset 6, aime la sagesse, elle te protégera. Verset 8, exalte-la, elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Aimer, exalter, embrasser, c'est vrai, parle d'une vive affection pour cette sagesse, à un point que nous sommes prêts à tout faire pour l'avoir. Est-ce que cela vous rappelle quelques propos de Jésus-Christ, chers amis? Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24, Jésus disait ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Oui, comme Jésus le dit, il y a un prix à payer. C'est clair. La sagesse s'achète au prix de notre vie. Tout ce que nous sommes, nous devons renoncer à nous-mêmes, nous soumettre à Jésus-Christ. Et vous savez, cela paraîtra comme une folie aux yeux de ce monde, aux yeux de nos amis, aux membres de notre famille, nos collègues au travail. Car le message de Jésus-Christ crucifié, d'après 1 Corinthiens, pour le salut de quiconque croit, ce message-là est une folie pour le monde. C'est une folie de penser qu'un homme crucifié sauve le monde. Mais pour nous qui croyons, dit l'apôtre Paul, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Donc ne passez pas de côté de cette sagesse-là. Chers amis, oui, c'est coûteux. Oui, tu auras parfois le sentiment de passer de côté de bonnes choses que le monde nous offre. Mais n'oubliez pas, troisième exhortation, que cela en vaut la peine. Cela en vaut la peine. Verset 9, elle mettra sur ta tête un gracieux ruban. Elle t'ornera d'un magnifique diadème, couronne, on pourrait le dire. Verset 13, retiens-la, car elle est ta vie. Oui, ce que tu acquiers vaut plus que toute autre acquisition. Un ruban donc, évoque la beauté. Le diadème, la couronne, évoque le prestige, la valeur, l'importance. Salomon, qui écrit tout ceci, n'est pas naïf. Il sait très bien que la voix des méchants apparaît comme faux. Alléchante. Cette voix promet beaucoup. D'autres semblent heureux en suivant cette voie-là. Il suffit de lire les chapitres 5 à 7. Nous allons les sauter, nous. Mais il suffit de les lire à propos de la tentation sexuelle pour voir que cette voie-là est trompeuse. Elle offre beaucoup, elle promet beaucoup. Mais comme la plupart des promesses de ce monde-ci, elle ne délivre pas ce qu'elle promet. Mais les récompenses à long terme de la sagesse biblique sont imbattables, chers amis, imbattables. Elle offre la vie. Et une fois qu'on arrive au bout de la révélation biblique, nous pouvons affirmer que Jésus offre la vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Jean chapitre 10. Et qu'elle ait en abondance la vie de Dieu. Une vie qui va au-delà de la mort physique. Sois fidèle jusqu'à la mort, disait Jésus, et je te donnerai la couronne de la vie. Apocalypse chapitre 2. Et ici, au verset 16 et 17, Salomon avertit que le méchant devient tellement accroché au mal qu'il doit vivre plutôt par le mal. Il n'arrive même pas à dormir, les méchants, sans avoir fait un exploit qui affirme leur identité indépendante de Dieu, contre Dieu. Ils se nourrissent de la mauvaise action, tout comme un jeune doit se vanter de ses exploits méchants afin d'être accepté par son gang, son groupe, son bande d'amis. Mais verset 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. Comme dit Jacques dans le Nouveau Testament, le riche, il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Donc, rappelons-nous de tels propos, chers amis. Suivre Jésus n'est pas le chemin des rabat-joie. Non. Nous ne sommes pas des malheureux d'être en Christ. Heureux, nous dit Jésus, sont ceux qui appartiennent au Seigneur. C'est le chemin de ceux qui ont la vie telle qu'elle est conçue par l'auteur de la vie. Vous voulez vraiment vivre et vous pensez que vous allez vivre mieux en dehors de ce que l'auteur de la vie nous dit? Courage à vous, les amis. Courage à vous. Vous vous trompez. Peut-être pendant un temps, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais ultimement, vous verrez bien que vous vous trompez. Et c'est pour cela que nous devons tout faire pour acquérir la sagesse à tout prix. Il ne sait pas que vous oubliez ou que vous ignoriez la juste valeur de votre foi. Voici une histoire vraie que j'ai racontée au camp Interaction. Donc pour ceux qui ont déjà assisté au camp Interaction, vous allez l'entendre une deuxième fois. En 1992, il y avait un Britannique, Peter Watling, un agriculteur qui a perdu son marteau, dans un champ. Ici, on a une image juste du marteau et le champ. On ne voit pas grand-chose ici sur l'écran, pardon, mes amis. Voilà, un tout petit peu, mais c'est encore un peu sombre. Excusez-moi pour ça. Allez, on reste là pour le moment, si tu veux bien, Pablo. Donc, Peter, qui a oublié, a perdu son marteau dans un champ. Je ne sais pas si c'est ce champ-là, je ne pense pas. Il demande à son ami Eric, un Eric Laws apparemment, de l'aider à retrouver son marteau. Eric, lui, il avait un détecteur de métal. Et donc, Eric, un après-midi, il part à la recherche d'un marteau un après-midi. Okay. Et en cherchant, il tombe sur des cuillères en argent, des bijoux en or, des pièces d'or et d'argent. Ils étaient romains. On attend, Pablo. Il fait, à ce moment-là, appel à l'aide d'un professionnel parce qu'il dit, il doit avoir quelque chose ici dans ce champ. Et pour finir, il découvre dans ce même champ plus de 15 000 objets en or et en argent. La plus grande découverte d'or romain qu'on ait jamais faite en Grande-Bretagne. On peut voir une partie de ce qu'il a trouvé maintenant sur l'écran. J'espère. Vas-y, continue avec les flèches. Encore.
Voilà, ça, et ensuite, continue, Pablo, voilà, ça, 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 ça. Okay. Là, dans l'ensemble, c'était à peu près 15 000 pièces qu'il a trouvées. Il a reçu, Eric, non pas Peter, parce que c'est Eric qui l'a trouvé, selon la loi britannique de l'époque. Si tu le trouvais, c'est toi, ça appartenait à toi. Il a reçu l'équivalent de 4,3 millions d'euros. Et vous savez tout ce qu'il cherchait? C'était un marteau, qu'il a d'ailleurs retrouvé dans le champ. Merci, merci Pablo. On peut réallumer. Imaginons maintenant que le champ, c'est la foi chrétienne. Ce que je crains, c'est que nous voyons ce champ et nous sommes de l'avis que ce champ ne contient pas beaucoup plus qu'un marteau. Ouais, on s'y met, car bon, il faut le faire. Mon voisin m'a demandé d'aller trouver ce marteau. Pourquoi pas? Bon, c'est un petit passe-temps, n'est-ce pas? De sortir de temps en temps avec mon détecteur en métal. Mais c'est pas plus que ça. Mais Jésus, rappelons-nous, il a raconté aussi une histoire d'un homme qui a découvert du trésor dans un champ. Et dans sa joie, nous entendons, il vend tout ce qu'il a. Il achète ce champ. Voyons-nous la vraie valeur de ce champ. Le champ qui a la foi chrétienne, la sagesse biblique. Qu'au lieu d'être rien qu'un passe-temps ou une activité religieuse extérieure de temps à autre le dimanche, non, ce champ est rempli d'or précieux. Ça a une valeur inestimable. Donc n'oublie pas, même si oui, il y a un coût à payer, que cela en vaut la peine. En êtes-vous convaincus, chers amis, de cela ce matin? Ben, si oui, nous arrivons à notre conclusion. Fais tout ce qu'il faut pour rester dans cette voie. Verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Et puis verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur dans la pensée biblique, ce n'est pas uniquement le centre de nos émotions, comme nous en parlons aujourd'hui, mais c'est le centre de la personnalité de la personne, le moteur pour tout ce que nous faisons. Cela dirige la direction de notre vie. De lui, dit ici le proverbe, viennent les sources de la vie. Donc gardons-le plus que toute autre chose, que nos affections de notre cœur, notre être, soit pour la sagesse qui vient de Dieu, qui vient de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui confond la sagesse de ce monde-ci. Si cette sagesse-là passe en sixième place seulement, ce n'est bon pour rien. Car la religion qui n'est que externe, même si on est présent tous les dimanches qu'on veut ici, cette religion n'aura pas la puissance nécessaire pour nous maintenir dans cette voie de la sagesse, pour nous protéger contre le mal le jour où je dois choisir. Non, on cherchera plutôt notre confort, notre bonheur, dans d'autres choses, non pas dans notre Créateur, des idoles devant lesquelles on se plie pour trouver le bonheur. Non, il faut mettre notre engagement pour le Christ en toute première place dans tout ce que nous faisons. Gardons notre cœur. Gardez votre cœur, chers frères et sœurs. Réfléchissons à cela. Cela devrait avoir des suites pour tout ce que nous faisons dans la vie, bien entendu. Ce que vous lisez lorsque vous êtes en vacances. Comment vous priez lorsque vous êtes dans la famille. Ce que vous faites pour vos intérêts, vos passe-temps, le temps que vous accordez à ces différentes choses. Gardez notre cœur, cela engendrera en nous, dans nos familles, de la confession de nos péchés, de notre faiblesse, de la repentance de temps à autre. La foi dans l'épreuve, on soit conscient de cela. Et on demandera à Dieu de nous aider. On demandera à nos frères et sœurs de prier pour nous, pour que le Seigneur reste au centre. Soyons donc conscients de la valeur de ce que nous avons en Christ et gardons nos cœurs. Je vais terminer, en fait, si vous voulez bien, avec une autre citation de l'épître de Philippiens, chapitre 4, qui se trouvera sur l'écran. Je croyais l'avoir sous les yeux moi-même, mais je vais le lire sur l'écran. Parce que ceci résume pour nous, donc, malgré l'épreuve, malgré la difficulté, que pour nous, la chose qui nous préoccupe soit ce que nous avons en Christ. Donc, réjouissez-vous, dit l'apôtre Paul, toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et qu'est-ce qui se passera si nous faisons cela? La paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Prions ensemble, si vous voulez bien, chers amis. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Seigneur, que nous soyons ceux qui suivent l'instruction ici de Salomon, de ce Père de la sagesse. Nous soyons ceux qui comprennent que même si, oui, nous devons tout dépenser pour acquérir cette sagesse, cela en vaut la peine. Garde-nous dans cette voie, Seigneur. Pardonne-nous pour les moments où nous sommes oublieux en ce qui concerne l'importance de la sagesse. Aide-nous à se remettre, à te faire confiance, à savoir que la sagesse que nous trouvons en Jésus-Christ est plus précieuse que toute autre chose dans notre vie. Que nous restions donc sur la voie de la sagesse. Que nous ne nous dévions ni droite ni à gauche, ni à droite ni à gauche. Que cela, Seigneur, puisse être le cas pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.